cours de phytopathologie appliquée. Niveau licence 3e année, spécialité sciences agronomiques. Préparé par Jimasra Ernest, Institut national supérieur des sciences agronomiques, de la production animale, des eaux et forêts, en 2024. Introduction. La phytopathologie est l'étude des maladies des plantes et des produits agricoles. Toutes les cultures sont naturellement vulnérables aux maladies, et celles-ci ne seront bien comprises que si l'on étudie à la fois la biologie de la plante, celle de l'agent pathogène, et leurs interactions avec l'environnement. La phytopathologie est une science pluridisciplinaire avec des implications importantes pour le bien-être de l'être humain. Dans le contexte agricole, la conséquence la plus préoccupante des maladies est la diminution quantitative ou qualitative de la récolte, que ce soit au champ ou en cours de stockage. La tendance actuelle à cultiver des surfaces de plus en plus grandes avec des variétés de plus en plus uniformes favorise le développement des pathologies. Les conséquences de ces maladies sont variées. Elles vont de la baisse des revenus et de la limitation des choix de culture, jusqu'à la faillite complète d'entreprises agricoles. L'étude de la phytopathologie est axée sur trois points essentiels. Le premier concerne les causes de la maladie, qui peuvent être d'origine abiotique, c'est-à-dire liées à des facteurs non vivants comme la température ou l'humidité, ou d'origine biotique, c'est-à-dire causées par des organismes vivants comme les champignons, les bactéries ou les virus. Le deuxième point porte sur les mécanismes mis en jeu, autrement dit la façon dont les parasites agissent sur les plantes, que ce soit par action directe, par interaction entre la plante et le parasite, ou encore par effet chimique. Le troisième point concerne les moyens de lutte. On distingue la lutte préventive, qui consiste à mettre en œuvre un ensemble d'opérations pour protéger les cultures avant l'apparition de la maladie, et la lutte curative, qui consiste à apporter une substance pour traiter la maladie une fois qu'elle s'est déclarée. Partie première. Les pathologies des cultures traditionnelles. Section première. Le mil, également appelé pénicillaire. Sous-section première. Le charbon du mil, causé par le champignon Tolyposporium penicillariae. Cette maladie se retrouve dans tous les pays sahéliens producteurs de mil et est considérée comme la deuxième maladie du mil après le mildiou. Symptômes et dégâts. Les fleurs attaquées par l'agent pathogène du charbon produisent des grains plus gros et plus verts que les grains normaux. Ces structures anormales, appelées sores, sont remplies d'une poudre noire. À maturité, les sores prennent une couleur brune. Les pertes causées par le charbon au Sahel sont estimées à environ 4% de la production. Epidemiology. Les spores du charbon du mil se propagent d'une localité à une autre par le vent et mécaniquement par les semences. Les spores du champignon peuvent attaquer directement les stigmates des fleurs au cours de la même saison, avant la fécondation de l'ovaire. Celles qui tombent sur le sol serviront d'inoculum pour les années suivantes. Un temps couvert et une humidité atmosphérique élevée au moment de la floraison favorisent le développement de la maladie. Méthode de lutte. Les épis très infectés doivent être récoltés séparément et détruits. Le traitement des semences avec un fongicide, comme le Benomil ou le Tyram, réduit l'infection des semences. Toutefois, la méthode de lutte la plus efficace reste l'utilisation de variétés résistantes. Sous-section deuxième. L'ergot du mil, causé par le champignon Claviceps fusiformi. Cette maladie existe dans tous les pays producteurs de mil. Symptômes et dégâts. L'agent pathogène de l'ergot se développe dans les ovaires en produisant un liquide gluant et sucré appelé miella. Par la suite, des organes appelés sclérotes, c'est-à-dire des masses compactes de filaments fongiques, se développent à partir des fleurs infectées. Les sclérotes peuvent être de couleur brun clair ou brun noir, et de formes variées, arrondies ou allongées. Epidemiology. Le cycle de la maladie est initié par les sclérotes laissées dans le champ après la récolte, qui germent dès les premières pluies. Les conidies, c'est-à-dire les spores issues de cette germination, infectent le mil au stade de floraison et se développent dans les ovaires en produisant du miella. L'infection et le développement de l'ergot sont favorisés par des températures comprises entre 18 et 30 degrés Celsius et une humidité supérieure à 90% méthode de lutte. L'infection de l'ergot se faisant par voie aérienne au moment de la floraison, elle est difficile à contrôler. Cependant, en combinant plusieurs méthodes, on peut réduire son incidence. Il s'agit d'éliminer les mauvaises herbes hautes autour des champs, de labourer profondément pour éliminer la viabilité des sclérotes dans le sol, de pratiquer la rotation des cultures, de semer précocement pour éviter que la floraison ne coïncide avec des conditions climatiques favorables à l'infection, et d'arracher périodiquement les chandelles présentant des miellas afin de réduire l'inoculum et d'empêcher la formation de nouveaux sclérotes. L'utilisation de variétés résistantes et l'application de fongicides une ou deux fois pendant la floraison sont également recommandées. Il est important de noter qu'après l'apparition de la maladie, l'application de fongicides devient inefficace. Sous-section 3e. Le mildiou du mil, causé par le champignon Sclerospora graminicola. Le mildiou est observé dans toutes les régions où le mil est cultivé. L'infection est plus importante dans les régions humides et cette maladie peut provoquer la mort des jeunes plantes. Symptômes et dégâts. On distingue deux types de symptômes. Sur les jeunes plantes avant la floraison, des plaques chlorotiques, c'est-à-dire des zones de décoloration, se développent sur la feuille à partir de sa base. Les feuilles atteintes deviennent partiellement vert jaunâtre, puis brunâtre. Des stries brunes d'environ 2 cm de long sur quelques millimètres de large sont visibles sur la feuille. À l'épiaison, à la place des chandelles se forment souvent des sortes de plumets verts, les pièces florales ayant été transformées en organes foliaires. Les inflorescences affectées se dégagent mal et sont généralement déformées. Les organes attaqués se dessèchent ensuite. Méthode de lutte. Les moyens de lutte préventive recommandés sont les suivants. Détruire par le feu les résidus de récoltes infectées. Arracher les plants malades dès que l'infection se manifeste. Pratiquer la rotation des cultures. Éviter de cultiver le mil dans les bas-fonds. Utiliser des semences saines. Désinfecter les semences et employer les variétés tolérantes. Section 2e. Le maïs. Sous-section 1e. L'helminthosporiose du maïs, causée par le champignon Drexlera maidi. Elle est largement répandue dans les régions tropicales humides et subtropicales et signalée dans la plupart des régions productrices de maïs au Sahel. La maladie est peu dangereuse dans les conditions normales de culture, mais on peut observer des attaques sévères dans les bas-fonds humides et sur des semis tardifs. Symptômes et dégâts. L'helminthosporiose se manifeste sur les feuilles, les gaines foliaires et les spathes des épis par des lésions de 10 à 20 mm sur 3 à 5 mm, débutant par des taches chlorotiques plus ou moins rectangulaires. Epidemiology. L'humidité et la température sont les principaux facteurs de développement de la maladie. Il faut une semaine consécutive de température supérieure à 15 degrés Celsius combinée à une humidité de 90% pour que l'infection se réalise. Cette infection se produit à partir des spores provenant des débris mal enfouis de la récolte précédente. Les attaques sont particulièrement nuisibles au rendement lorsqu'elles interviennent sur les feuilles d'épi pendant l'émergence des soies et le stade de grains pâteux. Méthode de lutte. Il est recommandé d'utiliser des variétés résistantes et de pratiquer des soins culturaux permettant de maintenir la maladie en dessous du seuil de nuisibilité. Enfouir les résidus de récolte précédente, respecter la date de semis et pratiquer la rotation. Il n'existe pas à ce jour de lutte chimique efficace contre cette maladie. Sous-section 2e. La striure du maïs, causée par le virus Mestricvirus, ou MSV. La striure du maïs est une maladie des graminées africaines et constitue la maladie la plus importante en culture du maïs. Symptômes et dégâts. Les symptômes se traduisent par la formation sur les feuilles de stries, c'est-à-dire de sillons peu profonds, chlorotiques. En réduisant la surface disponible pour la photosynthèse, ces stries perturbent le développement de la plante de façon plus ou moins importante selon le moment de l'attaque. Si celle-ci se produit moins d'une semaine après la levée, la production de maïs est anéantie. Si elle intervient 3 semaines après la levée, la perte de production peut atteindre 50%. Au-delà de 8 semaines après la levée, les attaques n'ont plus d'incidence sur le rendement. Epidemiology. Le virus de la striure ne peut être transmis au maïs que par l'intermédiaire de cicadelles, c'est-à-dire des insectes se nourrissant de la sève végétale. Ces insectes deviennent infectieux en se nourrissant de graminées contaminées. La proximité de vastes étendues d'herbes naturelles augmente la population des vecteurs et la charge virale. Une bonne pluviométrie, surtout en fin de saison, augmente la disponibilité en herbe et permet aux vecteurs de se développer abondamment au début de la nouvelle saison. Lutte. La résistance variétale est la méthode la plus efficace et la plus raisonnable pour lutter contre ce virus. Sous-section 3e. La mosaïque nanisante du maïs, causée par le Mesdwarf Mosaic Virus, ou MDMV. Symptômes et dégâts. Les feuilles formées après la contamination présentent une mosaïque vert clair apparaissant d'abord à la base du limbe. Cette mosaïque évolue en bandes jaunâtres qui ont parfois tendance à se nécroser, c'est-à-dire à former des zones de tissu mort. Une infection précoce peut ralentir la croissance de la plante ainsi que le développement des épis et des graines. La mosaïque nanisante prédispose également les plantes aux attaques d'agents pathogènes responsables de pourriture sèche ou molle du pied, entraînant l'averse des plantes. Ces dégâts peuvent engendrer une chute de rendement supérieure à 50% épidémiologie et lutte. La dissémination naturelle du virus est essentiellement assurée par des insectes ailés, notamment les pucerons Rhopalosiphum médi, qui colonisent le maïs en certaines saisons. La lutte consiste à éviter les semis tardifs et à utiliser des variétés résistantes au virus. Section 3e. Le sorgho. Sous-section 1e. Les charbons du sorgho. Trois types de charbons attaquent généralement le sorgho. Tous se caractérisent par l'apparition au sein des inflorescences de masses de spores, appelées sores, d'aspect poussiéreux et de couleur noire. Le degré de destruction des inflorescences permet de les distinguer. Premier type. Le charbon allongé, causé par Tolliposporium erambergii. Cette maladie est très importante dans les zones sèches, particulièrement au Sahel. Elle peut causer des dégâts atteignant plus de 40% de la production. Symptoms. Les sores sont disséminés sur la panicule, ce qui semble indiquer que l'infection a probablement lieu par l'intermédiaire de spores véhiculées par le vent après l'émergence de la panicule. En général, la maladie n'affecte qu'une proportion relativement faible des fleurs. Epidemiology. En période sèche, la surface du sol se fragmente et les particules de sol contenant des spores sont facilement transportées par le vent, infestant ainsi les fleurs. Ces spores germent lors d'une petite pluie ou d'une nuit humide. Les spores sont généralement plus nombreuses à la base des paniculées qu'au sommet, en raison du ruissellement des eaux de pluie qui les entraîne vers le bas, lorsque la panicule est encore à l'intérieur de la gaine. Lutte. Le seul moyen efficace de lutte est l'utilisation de variétés résistantes. La maladie ne peut pas être combattue par le traitement des semences. Deuxième type. Le charbon couvert, causé par Sphasloteca sorghii. Cette maladie sévit particulièrement dans les pays sahéliens producteurs de sorgho. Elle cause des dégâts importants sur le sorgho de décrue, de contre-saison et le sorgho hivernal dans les zones soudano-sahéliennes. Symptoms. Les grains de la panicule sont remplacés individuellement par les sores du charbon, localement sur une partie de la panicule ou sur l'ensemble de l'inflorescence. Les sores sont de forme ovoïde ou conique et couverts d'une peau résistante de couleur brun clair. Épidémiologie et méthode de lutte. Les conditions atmosphériques influencent l'ampleur de l'infestation. Celle-ci est faible sur les cultures semées dans un sol chaud et très humide, ce qui suggère qu'un semis dans ces conditions favorise la vigueur et la croissance rapide de la plantule, lui permettant ainsi d'échapper à l'infection. Le traitement des semences est très efficace. Des produits tels que le bénomyl, le carbendazime ou le tyram sont efficaces contre le charbon couvert. Troisième type. Le charbon de la panicule du sorgho, causé par Sphasloteca reliana. Symptoms. En cas de maladie, la panicule du sorgho peut être complètement ou partiellement remplacée par une grande gale blanchâtre. Ces gales sont d'abord recouvertes d'une membrane blanchâtre ou grisâtre de tissu fongique, qui seront souvent avant l'émergence de la panicule, libérant un amas de poudre brune ou noire, c'est-à-dire les spores du charbon, au sein desquels sont enfouis de longs filaments correspondant aux faisceaux vasculaires de la panicule infectée. Les spores sont ensuite disséminés par le vent, mettant à nu les fibres détruites. Ce type de charbon se distingue facilement des deux précédents, pour lesquels les fleurs sont attaquées individuellement. Épidémiologie et lutte. Les spores sont disséminés par le vent et la pluie et survivent dans le sol pendant la saison sèche. L'infection des paniculées est systémique, c'est-à-dire qu'elle envahit l'ensemble de la plante. La maladie n'est généralement pas détectée avant l'apparition des épis infectés. La germination des spores est sporadique et peu de spores germent à la fois. Si le sorgho est cultivé pendant plusieurs années sans rotation, les spores accumulés dans le sol peuvent suffire à développer la maladie. Le traitement des semences n'étant pas efficace, le seul moyen de lutte est l'utilisation de variétés résistantes. Sous-section 2e. La rouille du sorgho, causée par le champignon Puccinia purpurea. Symptômes, épidémiologie et lutte. De nombreuses taches de couleur pourpre, rouge ou brun foncé apparaissent sur les deux faces des feuilles. La maladie se développe en général tardivement, à l'approche de la maturité des plantes, et affecte souvent les feuilles les plus âgées. Bien que communément observée, la rouille du sorgho ne semble être que peu dommageable pour les rendements. L'utilisation de variétés résistantes ou peu sensibles constitue le seul moyen de lutte. Sous-section 3e. La cercosporiose du sorgho, causée par le champignon Cercospora sorghii. Symptômes et dégâts. La maladie se manifeste par l'apparition de petites taches qui s'agrandissent pour former des lésions rectangulaires ou ovales sur les feuilles et les gaines foliaires. De fortes attaques au stade de remplissage des grains peuvent entraîner une défoliation importante et des chutes de rendement pouvant atteindre 50%. Épidémiologie et méthode de lutte. Les temps chauds et humides sont favorables à la maladie, qui se développe surtout à l'approche de la maturité des plantes. Les dégâts peuvent être réduits par l'utilisation de variétés peu sensibles, la rotation des cultures et la destruction des résidus et des repousses. Sous-section 4e. L'helminthosporiose du sorgho, causée par le champignon Helminthosporium turcicum. Symptômes et dégâts. Les symptômes typiques sont de grandes lésions de 2,5 à 15 cm de large, parallèles aux nervures des feuilles. La maladie atteint d'abord les feuilles les plus âgées. Une forte attaque peut engendrer des chutes de rendement supérieures à 50% lorsque la maladie détruit une grande partie des feuilles avant la floraison. Épidémiologie et lutte. Des températures modérées combinées à une forte humidité favorisent le développement de la maladie. L'utilisation de variétés résistantes, la rotation des cultures et la destruction des résidus de récolte constituent les seuls moyens de lutte. Sous-section 5e. Le mildiou du sorgho, causé par le champignon Peronosclerospora sorghi. Symptômes et dégâts. Les feuilles des plantes infectées présentent des bandes longitudinales nettement définies de tissus décolorés alternant avec des bandes de tissu vert. Le blanchiment des tissus peut affecter la quasi-totalité du limbe, particulièrement les dernières feuilles formées. En vieillissant, ces zones décolorées rougissent puis se nécrosent. La croissance des plantes attaquées est freinée. Épidémiologie et lutte. Le champignon infecte le sorgho au moment de la germination, en pénétrant par les racines à partir de structures de conservation appelées oospores, qui peuvent survivre plusieurs années dans le sol. Les pertes de rendement liées à la maladie sont la plupart du temps faibles, mais peuvent être très élevées selon les conditions climatiques au moment du semis. L'utilisation de variétés résistantes, la destruction rapide des plantes malades et des débris de cultures infectées aident à réduire le potentiel infectieux de l'agent pathogène. Un labour profond enfouit les agents pathogènes hors de portée des racines des plantules et diminue leur taux d'infection. Il est nécessaire d'éviter la culture continue du sorgho ou la rotation sorgho-maïs sur le même sol. Le traitement des semences avec des fongicides à base de métallaxyle assure une protection efficace des plantes. Section 4e. L'arachide. Sous-section 1e. La rosette de l'arachide, causée par le Grundnut rosette virus, ou GRV. Symptoms. Les plantes infectées par le virus de la rosette ont un aspect rabougri et touffu. Les feuilles sont déformées, boursouflées et décolorées. Ces plantes sont le plus souvent stériles. Si l'infection est tardive, l'extrémité des pousses présente un signe de nanisme. Le virus de la rosette est exclusivement transmis par un puceron d'environ 2 mm de long, la Ficraxivora. Celui-ci devient virulifère, c'est-à-dire porteur du virus, en se nourrissant de plantes malades. Les symptômes n'apparaissent que 10 à 14 jours après l'inoculation du virus dans la plante. Épidémiologie et méthode de lutte. La dissémination du virus est liée à l'activité du vecteur, favorisée par des périodes sèches. Les champs à densité de semis élevés sont en général moins atteints par la rosette. Les variétés d'arachide à port dressé sont moins sensibles. L'arrachage des plantes infectées en cours de campagne n'est pas conseillé, car en créant des vides dans la végétation, il augmente le risque d'infection des plantes voisines. Il convient de semer l'arachide à forte densité et de détruire les repousses pendant l'intercampagne. La lutte chimique contre les vecteurs est nécessaire, on utilise souvent le diméthoate ou le phosphamidon à raison de 2 cents à 300 ml par hectare. La rouille de l'arachide, causée par Puccinia arachidi, et la cercosporiose de l'arachide, causée par Cercospora arachidicola et Cercosporidium personatum, présentent des caractéristiques épidémiologiques similaires à celles décrites respectivement pour la rouille et la cercosporiose du sorgho. Section 5e. Le riz. Sous-section 1e. La pyriculariose du riz, causée par le champignon Pyricularia oryzae. Symptoms. Sur les feuilles, des lésions typiques ovales plus ou moins allongées présentent un centre gris entouré d'une bordure rouge sombre ou brune. Sur les nœuds et la base des paniculés, l'attaque se caractérise par une pourriture. Les attaques foliaires affectent le rendement en réduisant la surface disponible pour la photosynthèse. Les attaques des nœuds et des bases de panicules empêchent la circulation des éléments nutritifs vers la partie supérieure de la plante. Même sans provoquer la cassure de la tige, ces attaques peuvent être à l'origine d'un mauvais remplissage, voire d'un non-remplissage des grains. Épidémiologie et lutte. Les conditions favorables à la maladie sont une humidité de l'air élevée, de l'ordre de 90 à 95%, combinée à une température de 24 à 28 degrés Celsius, par temps couvert. Pour une lutte efficace, il est conseillé d'utiliser des variétés résistantes, de pratiquer une fertilisation équilibrée, de maîtriser le régime hydrique pour éviter les stress, et de jouer sur la date de semis afin d'éviter que les piaisons ne coïncident avec les conditions climatiques favorables à la maladie. Sous-section 2e. La mosaïque jaune du riz, causée par le Raicielo motel virus, ou RIMV. Cette maladie est signalée dans la plupart des rizières des zones rizicoles du Sahel. Symptômes, épidémiologie et lutte. Les plants atteints sont jaunes avec une chlorose foliaire, rabougris, avec un faible tallage. Les paniculés sont déformés, n'émergent que partiellement et, en cas de forte attaque, les grains sont vides. Les agents vecteurs de cette virose sont des coléoptères, c'est-à-dire des insectes à ailes rigides. Les premiers symptômes apparaissent 3 à 4 semaines après le repiquage. La principale méthode de lutte est l'utilisation de variétés résistantes. Section 6M. Le niébé, Vinia unguiculata. Sous-section 1. La virose du niébé, transmise par des pucerons de type copie à foodborne mosaic virus, ou KBMV. Symptômes et dégâts. Les symptômes de la virose du niébé comprennent une mosaïque sévère, des déformations des feuilles et un nanisme de la plante. Épidémiologie et lutte. Le parasitisme est très important chez le niébé. À la floraison, de nombreux insectes tels que les pucerons, les coréoïdes, les cicadelles, les chenilles et les lépidoptères se développent. À la fructification et en fin de cycle, d'autres insectes prennent le relais. En stockage, le principal ravageur est le Calosobruchus chinensi. Les vecteurs du virus sont généralement des pucerons, notamment le Mysu persicae, mais surtout la Phycra xivora. Le virus peut également être transmis mécaniquement, et le taux de transmission par la graine est très variable. Des pratiques culturales comme la culture associée et l'arrachage des plants malades peuvent contribuer à diminuer les dégâts et à retarder la propagation de la maladie. La sélection de variétés résistantes semble être la seule voie réaliste à long terme. Partie 2. Les pathologies des cultures industrielles. Section 1. Le cotonnier, Gossypium hirsutum. Sous-section 1. La bactériose du cotonnier, causée par la bactérie Xanthomona campestri. Symptômes et dégâts. Les symptômes sont caractérisés par de petites taches anguleuses vert foncé d'aspect imbibé d'eau, apparaissant à la face inférieure des feuilles. En vieillissant, ces taches se nécrosent et peuvent également être visibles à la face supérieure du limbe. Des attaques sévères au niveau des pétioles peuvent entraîner la chute des feuilles. Sur les tiges et les rameaux, la bactérie produit des taches allongées huileuses qui évoluent en chancre, c'est-à-dire en lésions profondes, pouvant entraîner le dessèchement des organes atteints. Sur les capsules, les taches sont arrondies, huileuses et brunes. Épidémiologie et méthode de lutte. La maladie est favorisée par un temps chaud et humide. La pluie et le vent disséminent la bactérie, qui persiste dans les semences, les débris de plantes infectées et les repousses. L'utilisation de cultivars résistants constitue la méthode de contrôle la plus efficace. Le traitement des semences, notamment leur enrobage avec un composé fongicide approprié, réduit le taux de contamination. L'arrachage des cotonniers en fin de campagne, suivi de leur incinération, diminue les risques d'infection. Sous-section 2. La verticilliose du cotonnier, causée par le champignon Verticillium dahliae. Symptoms. La maladie se manifeste par un flétrissement progressif des plants, évoluant généralement de bas en haut. Les zones entre les nervures des feuilles deviennent chlorotiques puis se nécrosent, les feuilles s'enroulent et se sèchent. La plante ne meurt pas nécessairement, mais sa croissance est fortement ralentie. Une coupe transversale de la tige ou des pétioles révèle un brunissement continu du système vasculaire, qui constitue également un critère de diagnostic de la maladie. Épidémiologie et méthode de lutte. Le champignon survit dans le sol et envahit le système vasculaire en pénétrant par les racines. La maladie s'étend ensuite lentement dans les parcelles. L'agent pathogène est disséminé par les semences infectées, l'eau de ruissellement, le vent dispersant les débris, ou le sol infecté. La lutte consiste à arracher et détruire par incinération les plantes malades. L'utilisation de cultivars résistants et la désinfection des semences réduisent les risques. La rotation avec des céréales comme le maïs ou le sorgho peut prévenir le développement du champignon dans le sol, mais ne réduit que lentement le niveau de contamination d'un sol déjà infecté. Parmi les autres maladies courantes du cotonnier, on peut citer la fusariose, causée par Fusarium oxysporum vasinfectum. Cette maladie attaque le cotonnier par les racines et se caractérise par un jaunissement centripète des feuilles, le noircissement des faisceaux vasculaires et la mort du plant adulte. L'utilisation de variétés résistantes et la rotation constituent des méthodes de lutte efficaces. On peut également citer la maladie bleue, aussi appelée leaf curl mosaic, une maladie virale transmise par des pucerons de l'espèce aphie. Les symptômes sont la déformation des feuilles et la stérilité des cotonniers. La lutte consiste à détruire les plantes malades et à cultiver des variétés résistantes. Section 2. La canne à sucre, Saccharum officinarum. Sous-section 1. Le charbon de la canne à sucre, causée par le champignon Sporisaurium citamineum. Cette maladie est très répandue en Afrique, surtout dans les régions chaudes, et a été disséminée récemment dans plusieurs pays producteurs de canne à sucre. Les pertes provoquées par la maladie sont cependant difficiles à évaluer. Symptômes et dégâts. Au sommet de la plante, on remarque la présence de filaments recouverts de spores noires, résultant de la transformation du bourgeon terminal de la tige. Les tiges affectées sont grêles, avec des feuilles étroites, courtes et droites, donnant à la plante l'aspect d'une herbe. Une ou plusieurs tiges peuvent être affectées dans une même touffe, entraînant la mortalité des tiges, et dans les cas extrêmes, de la touffe entière, ainsi que de mauvaises repousses. Épidémiologie et lutte. Les spores sont disséminées par le vent, infectant la plante à travers les racines, la base ou le long des tiges. La transmission se fait aussi par des boutures malades portant des infections latentes, probablement par les jeunes bourgeons en germination, et par des conditions très sèches et chaudes qui favorisent la dissémination du pathogène tout en diminuant la résistance des plantes. Les méthodes de lutte comprennent l'emploi de variétés résistantes, le choix de boutures saines provenant de pépinières indemnes, le traitement des boutures à l'eau chaude d'environ 50 degrés Celsius pendant 30 minutes avec incorporation de fongicides, l'arrachage des plantes dans un chantron infecté, et l'éradication complète des repousses des variétés sensibles lors d'une nouvelle plantation. Sous-section 2e. Les chaudures de la canne à sucre, aussi appelée leaf scald, causée par la bactérie Xanthomonas albilinéans. La maladie peut être sévère et provoquer des pertes importantes dans les variétés sensibles. Les climats continentaux avec des variations extrêmes de température et d'humidité sont propices à la maladie. En revanche, sous le climat insulaire, la vigueur de croissance de la canne à sucre fait que la maladie est rarement grave. Symptoms. Les symptômes comprennent des stries jaunes généralement étroites, de 3 à 4 mm de large, principalement aux extrémités des feuilles. La partie ancienne des stries devient souvent nécrosée. On observe des lignes blanches d'1 à 2 mm sur les feuilles nécrosées, descendant parfois jusqu'à la gaine avec de petites striures rouges. Les feuilles se dessèchent avec enroulement des sommets. Les vaisseaux de la tige se colorent en rouge, ce qui entraîne la mortalité des tiges et la perte des souches en repousse. Épidémiologie et lutte. La transmission se fait à travers les boutures malades, les couteaux et autres lames de moissonnage, et surtout par les rejets coupés en dessous du bourgeon terminal. Les conditions humides favorisent la transmission, mais les effets de la maladie sont d'autant plus sévères que le climat est sec et froid. La lutte consiste à utiliser des variétés résistantes, choisir des boutures saines provenant de pépinières, et désinfecter les lames et autres outils de moissonnage. Sous-section 3e. Le Poca boeigne, aussi appelé fusariose du sommet, causée par le champignon Fusarium moniliforme. Cette maladie n'a aucune importance économique sauf dans des conditions exceptionnelles sur des variétés très sensibles. Symptômes, épidémiologie et méthodes de lutte. Les symptômes se caractérisent par une distorsion du sommet de la plante, un enchevêtrement des feuilles courtes et déformées, des chloroses à la base des feuilles avec de petites taches rougeâtres, la pourriture du bourgeon terminal et des lésions sur les tiges et les entrenœuds. Les spores disséminées par le vent pénètrent dans les vaisseaux, et l'expression des symptômes est favorisée par des conditions sèches suivies d'une reprise de croissance active déclenchée par la pluie. L'utilisation de variétés résistantes et le traitement des boutures constituent les meilleures méthodes de lutte. Sous-section 4e. Le mildiou de la canne à sucre, causé par le champignon Peronosclerospora saccharii. Le mildiou est considéré comme l'une des maladies les plus graves de la canne à sucre. Symptômes, dégâts, épidémiologie et lutte. Le symptôme est caractérisé par la présence de stries ou de bandes de couleur vert pâle ou bigarrée, devenant jaune, suivi par l'apparition de stries rougeâtres sur la face inférieure de la feuille. Le mildiou est transmis par les boutures infectées. Les conidies sont dispersées par le vent et la pluie. Pour la lutte, il faut utiliser des variétés résistantes, éliminer les foyers de maladie et replanter les champs infectés en utilisant des boutures saines. Section 3e. Le tabac, Nicotiana rustica et Nicotiana tabacum. Sous-section 1e. La mosaïque du tabac, causée par le tobacco mosaic. Virus, ou TMV. Symptômes, épidémiologie et lutte. Les symptômes varient en fonction de la souche du virus et de la variété de tabac cultivé. Les feuilles des plantes infectées présentent une mosaïque de taches vert clair à jaunâtre. Le limbe a souvent un aspect gaufré, dû à une croissance irrégulière des tissus. Lorsque l'infection est précoce, le développement de la plante est affecté, les entrenœuds sont courts et les feuilles plus petites et étroites. Le virus de la mosaïque se transmet par simple contact entre une plante saine et une plante malade, ou par l'intermédiaire de l'homme lors des opérations culturales comme le repiquage ou la récolte. D'autres viroses attaquent également le tabac, provoquant des déformations et transmises par des pucerons. La lutte est avant tout préventive et consiste à éliminer les plantes malades dès leur détection. Sous-section 2e. Le blanc du tabac, causé par le champignon érysif Psychoracearum, aussi appelé oïdium du tabac. Symptômes, dégâts, épidémiologie et lutte. Les symptômes sont caractérisés par de petites taches poudreuses blanchâtres apparaissant à la face supérieure des feuilles. Dans des conditions de forte humidité, ces taches s'étendent et le limbe se couvre progressivement d'un feutrage blanchâtre farineux constitué par les fructifications du champignon. L'infection débute généralement sur les feuilles âgées, qui meurent lorsqu'elles sont fortement atteintes. Un temps couvert, humide et froid est favorable au développement de cette maladie. Au moment de la plantation, il faut si possible choisir une orientation et un espacement entre rangs qui favorisent l'aération et l'éclaircissement des plantes. Tout ombrage et toute persistance d'eau sont à éviter. Les feuilles inutilisables de la base doivent être éliminées et détruites tôt dans le développement de la plante. Des pulvérisations de bénomyl à raison de 200 g par litre par hectare, à 15 jours d'intervalle, sont efficaces contre cette maladie. Section 4e. Le caféier. Sous-section 1e. Le dépérissement sur production, aussi appelé dieback de surcharge. Il s'agit d'une maladie non parasitaire, c'est-à-dire d'un trouble physiologique lié au nombre excessif de fruits portés par l'arbre. Symptoms. La maladie se caractérise par un noircissement des rameaux et parfois des branches depuis leur extrémité, suivi d'une chute des feuilles. Les drupes, c'est-à-dire les fruits du caféier, ne mûrissent pas et se nécrosent. Ce trouble intervient lorsque le caféier porte plus de fruits qu'il ne peut en nourrir. Les réserves de l'arbre s'épuisent et sa vitalité se dégrade, pouvant aller jusqu'à la mort de la plante si le phénomène se répète saison après saison. Les symptômes caractéristiques se développent généralement au début de la grande saison sèche. Épidémiologie et lutte. La défoliation due aux insectes ou aux maladies parasitaires prédispose le caféier à ce trouble, tout comme d'autres facteurs entravant la croissance normale. Le dessèchement, le mauvais enracinement, la concurrence des plantes adventices, la faible fertilité du sol. Installer le caféier dans un sol et une région propice à sa culture, et mettre en œuvre toutes les pratiques culturales favorisant sa vigueur, permettra d'éviter ce trouble. Si des symptômes de dépérissement liés à la surproduction apparaissent, il est conseillé de cueillir le plus rapidement possible une partie ou la totalité des drupes pour éviter les dégâts. Cette pratique est particulièrement recommandée pour les jeunes plants portant leur première production. Sous-section 2e. Le dieback bactérien, causé par la bactérie Pseudomonas syringae, aussi appelée maladie d'Elgon. Symptômes, épidémiologie et lutte. La maladie débute par un noircissement des entrenœuds contaminés, pouvant également affecter les pétioles et la base des limbes. Ces noircissements peuvent entraîner progressivement la mort du rameau attaqué et le dessèchement des feuilles qu'il porte. La maladie est favorisée par un temps froid et humide. Les jeunes plantes sont particulièrement sensibles. Il est recommandé d'éliminer toutes les branches non nécessaires et de tailler les branches infectées à au moins 5 cm en dessous du front d'avancement des lésions. Les outils ayant servi à la taille doivent être soigneusement désinfectés. Le contrôle chimique comporte des pulvérisations de fongicides à base de cuivre toutes les 2 à 3 semaines pendant la saison des pluies, et en particulier pendant la floraison. Sous-section 3e. Les pourridiers radiculaires du caféier, causés par des champignons. Ces pathologies sont dues à plusieurs champignons aux symptômes sensiblement identiques. Le pivot et les racines principales sont plus ou moins pourries et fissurées longitudinalement. On observe la présence de mycélium blanc sur les écorces et une odeur caractéristique de champignons frais. La lutte consiste à arracher et incinérer les plantes malades. Sous-section 4e. La rouille du caféier, causée par les champignons Emileia vastatrix et Emileia cofecola. Emileia vastatrix est sans doute la maladie du caféier qui a causé le plus de dégâts depuis sa découverte en 1861 au Sri Lanka. Symptômes, épidémiologie et lutte. Le mycélium du champignon envahit les tissus de la feuille, se traduisant par l'apparition de petites taches jaunâtres plus ou moins translucides. Les feuilles malades, dont la chlorophylle est détruite, finissent par tomber. En cas d'attaque sévère, l'arbuste est totalement défeuillé, ses extrémités se dessèchent et il peut mourir si le phénomène se renouvelle. L'infection se propage par des spores véhiculés par le vent et les insectes, parfois sur de très grandes distances. Le traitement repose sur l'utilisation de préparations commerciales à base de cuivre. Partie 3e. Les pathologies des arbres fruitiers. Section 1e. Les manguières, Mangifera indica. Sous-section 1e. la maladie des taches noires du manguier, causée par la bactérie Xanthomonas axonopodi. Symptoms. La maladie se manifeste par l'apparition de lésions noires plus ou moins anguleuses sur les feuilles, des chancres longitudinaux sur les tiges, et des lésions noires surtout autour des blessures, avec chute précoce des fruits. Epidemiology. La pénétration de la bactérie se fait surtout à travers les blessures et parfois par les stomates, c'est-à-dire les orifices microscopiques de l'épiderme des feuilles. Les blessures constituent le facteur déterminant de la maladie. La bactérie vit dans le sol et les débris végétaux et est particulièrement sévère sur les jeunes arbres. Méthode de lutte. L'utilisation de variétés résistantes et l'élagage des plantes infectées peu avant la saison des pluies constituent les méthodes les plus efficaces. Sous-section 2e. L'anthracnose du manguier, causée par le champignon Colthotrichum gloeosporioide. Symptômes, épidémiologie et lutte. Sur les feuilles, de petites taches arrondies brun foncé et irrégulières d'au moins 1 cm de diamètre apparaissent. Le centre de la lésion se dessèche et tombe, laissant les feuilles criblées de trous. Il en résulte un arrêt de croissance et la chute des jeunes feuilles. Sur les rameaux, on observe une nécrose des extrémités entraînant le dessèchement des bourgeons et des feuilles qu'ils portent. Sur les fruits, des taches noires apparaissent sur la peau, sous laquelle la pulpe brunit et pourrit à l'approche de la maturité. Sur les fleurs, on observe un noircissement et un dessèchement des pédoncules, c'est-à-dire les tiges qui portent les fleurs ou les fruits. Des températures basses favorisent la multiplication du champignon, tandis que la pluie dissémine les spores et que l'humidité joue un rôle essentiel dans le processus d'infection. Il existe peu de variétés résistantes à l'anthracnose. La meilleure méthode de lutte est la protection des mangues destinées à la commercialisation avec des fongicides systémiques, surtout à partir de la floraison. Section 2e. Les agrumes. Sous-section 1e. La tristeza des agrumes, causée par le Citrus tristeza virus, ou CTV. Symptoms. Les types de symptômes et leur sévérité varient en fonction de la virulence de la souche du virus, du type d'agrumes infecté et de la combinaison porte-greffe et greffon. Les symptômes les plus spécifiques à la tristeza ne se rencontrent que sur le citron vert, sous forme d'une décoloration discontinue de la nervure centrale et des nervures secondaires, ainsi que de déformations dans le bois, visibles extérieurement en cas d'infection ancienne ou après écorçage en cas d'infection récente. La croissance des arbres est nettement ralentie, le système racinaire pourri et divers symptômes de malnutrition apparaissent sur le feuillage. Epidemiology. Le virus est disséminé par l'utilisation de greffons infectés et transmis par différents pucerons, notamment le Toxoptra citricidus, mais aussi la Phygocypi et le Toxoptra auranti. Lutte. La seule méthode de lutte applicable consiste à utiliser des combinaisons porte-greffes et greffons tolérantes à la maladie. À l'exception du citronnier, toutes les espèces greffées sur bigaradier, c'est-à-dire sur un oranger produisant des oranges amères, sont sensibles à la tristeza. L'oranger et le mandarinier sont tolérants lorsqu'ils sont de franc-pied, c'est-à-dire non greffés. Le matériel végétal doit préférentiellement être importé de stations spécialisées dans la production de plants certifiés sains. Sous-section 2e. Le greening des agrumes, causé par une bactérie. Le greening est une maladie extrêmement dommageable, vraisemblablement la cause principale du déclin de la production des agrumes depuis plusieurs années. Symptoms. Les feuilles des arbres atteints sont souvent chlorotiques avec des nervures jaunâtres. La maladie cause un nanisme des plants, diminue la densité du feuillage et entraîne la mort de certaines branches. Les fruits sont déformés. La partie exposée au soleil développe une coloration normale, tandis que la zone côté ombragée demeure verte. Le jus des fruits devient amer. Epidemiology. La bactérie responsable est disséminée par l'utilisation de greffons infectés et transmise par des insectes vecteurs. Lutte. Pour contrôler la maladie, il est indispensable de constituer des vergers de pied-mère garantis indemnes de maladies transmissibles, installés de préférence dans les zones où les insectes vecteurs sont moins abondants. La protection contre le vecteur Triosa erythri peut être assurée par des pulvérisations de diméthoate à 30 à 50 g par litre d'eau. Section 3e. Le papayer. Sous-section 1e. La fonte des semis du papayer, causée par des champignons du sol tels que Fusarium sp., Pythium sp. Et Corticium rolfsi. Symptoms. La maladie se manifeste par le flétrissement et le jaunissement des plantules, qui meurent ensuite en s'affaissant parfois vers le sol. Les collets de ces plantes montrent différents types de symptômes. Des lésions déprimées brun-rouge s'étendant longitudinalement, des lésions brun clair en anneaux couvertes de mycélium blanchâtre, ou encore des lésions aqueuses vert sombre. Le système racinaire présente souvent divers niveaux de dégradation. Les micro-organismes responsables sont présents dans la plupart des sols cultivés et peuvent être nuisibles pour de nombreuses autres cultures comme le niébé ou le cotonnier. Epidemiology. La fonte des semis est provoquée par divers champignons du sol, qui agissent parfois en association. Ils peuvent attaquer les graines en germination, entraînant une mauvaise levée. Ces maladies se manifestent souvent peu de temps après la levée des plantules. Lutte. La lutte repose sur des pratiques culturales favorisant une croissance rapide et vigoureuse des plantes. L'utilisation de semences de bonne qualité, des semis à densité modérée dans un sol bien aéré et bien drainé, un arrosage adapté aux besoins des plantes, et l'enrobage des semences par des fongicides à large spectre comme le tiram ou le captane. Section 4e. Le bananier. Sous-section 1e. Le bunchitope du bananier, causé par le banana bunchitope virus, ou BBTV. Symptoms. Les feuilles formées après la contamination par le virus sont de taille réduite. Leur pétiole ne se dégage pas des gaines et les feuilles restent dressées, formant un bouquet serré au milieu des feuilles plus âgées. Les rejets produits par ces plantes sont atteints de nanisme. Leurs feuilles souvent chlorotiques dont les bords se nécrosent progressivement, restent groupées en bouquets dressés. Les rejets végètent plus ou moins longtemps avant de mourir. Les plantes adultes contaminées peuvent fructifier, mais ne produisent que de petits régimes. Epidemiology. La virose est transmise par un puceron de couleur brunâtre, le Pentalonia nigronervosa, qui vit en colonie à l'aisselle des feuilles ou dans les gaines foliaires externes. Lutte. Dès l'apparition des premiers symptômes, les plantes virosées ainsi que leurs rejets doivent être soigneusement arrachés et détruits par le feu ou enfouis profondément. Il est également conseillé de pulvériser abondamment au préalable les plantes malades avec un aficide comme le diméthoate à 10 à 15 grammes par litre d'eau, afin de tuer les pucerons vecteurs avant l'arrachage. Sous-section 2e. La mosaïque à tirer du bananier, causée par le banana streak virus, ou BV. Symptômes, mode de transmission et lutte. La maladie se caractérise par l'apparition sur les feuilles de nombreuses stries chlorotiques souvent discontinues, dispersées parallèlement aux nervures secondaires. De petites lésions se forment ultérieurement sur les limbes, la nervure centrale, les pétioles et les gaines foliaires. La maladie peut empêcher le bon déroulement des jeunes feuilles. La croissance des régimes et la qualité des fruits sont également affectées. Le mode de transmission de cette virose n'est pas encore connu avec certitude, mais le vecteur serait vraisemblablement un puceron de type Aphygocypi. Dès l'apparition de la maladie, il est conseillé d'arracher et de détruire soigneusement les plantes malades ainsi que les souches infectées. Sous-section 3e. La maladie de Panama du bananier, causée par le champignon Fusarium oxysporum. Symptoms. Les premiers symptômes sont caractérisés par une chlorose des feuilles les plus âgées ou le flétrissement des pétioles. Les symptômes gagnent progressivement les feuilles les plus jeunes, et seule la dernière feuille encore non déroulée demeure intacte pendant quelque temps. Le flétrissement des pétioles et les feuilles mortes pendant autour du pseudotron sont les symptômes externes les plus caractéristiques de la maladie de Panama. Epidemiology. Le champignon responsable peut survivre en mode saprophyte dans le sol pendant de nombreuses années. Il pénètre dans les plantes par les racines et envahit les vaisseaux, perturbant la circulation de la sève minérale. Des sols peu fertiles, acide, compact ou mal drainé favorise l'installation et le développement de la maladie. Lutte. La lutte repose essentiellement sur l'utilisation de variétés résistantes, car il n'existe à ce jour aucune méthode chimique capable d'assurer un contrôle efficace de cette maladie.